Voilà, donc il s'agit de la visite du ressuscité dans l'évangile de Jean. Alors, à proprement parler, il n'y a pas de visite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de terme consacré, un terme précis, spécifique, pour parler de visite dans l'évangile de Jean. Ça serait plutôt un terme qu'utiliserait Luc dans les Actes des Apôtres avec les voyages de Paul. C'est plutôt des termes qui signifient les visites, mais quand on est dans le texte, on voit bien qu'il s'agit de visite. Alors, en grec, puisque vous avez déjà vu la séance précédente, l'étymologie, ou en tout cas les racines du terme hébraïque, du terme visite, en grec, c'est episcopto, hein, donc c'est à la fois visiter, mais c'est aussi examiner, c'est aussi rechercher, et c'est aussi rendre secours. C'est ce verbe qui est utilisé dans Matthieu 25, dans le sermon sur la montagne, quand il s'agit d'aller visiter les malades. Hein, donc c'est un terme très spécifique, mais qui est absent des péricopes que nous avons choisis pour ce matin. Alors évidemment, il y a d'autres façons de parler de visite dans ce texte, et on va voir justement quels sont les termes qui sont utilisés. En tout cas, comment est-ce que le rédacteur nous montre Jésus qui le ressuscité, hein, le ressuscité vraiment, qui rend visite aux disciples qui sont perdus, qui sont vraiment déroutés puisque Jésus est mort et que là, il y a une butée et on ne peut pas revenir en arrière. Voilà, donc je commence donc par là. Alors, je vais commencer puisque dans l'évangile, ce n'est pas un terme proprement johannique, c'est pas un terme qu'on trouve dans l'évangile de Jean, c'était cette visite. Eh bien, en fait, en lisant comme ça, mais presque intuitivement, je me suis rendu compte que il y a autre chose peut-être que les visites, c'est le terme d'accueil, et on le voit dans le prologue. Le logos est envoyé, donc la parole est envoyée aux siens, et ces siens ne l'ont pas accueilli, ces siens ne l'ont pas reçu. Donc il s'agit bien là d'une visite. Alors c'est très important parce que vous savez que le prologue de Jean, c'est un programme, hein, c'est donc une introduction programmatique pour l'ensemble de l'évangile. Et on voit bien dans le prologue, je vais au verset 12, donc du chapitre 1, mais à ceux qui l'ont accueilli, donc qui ont reçu cette visite, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc le pouvoir, on va avoir l'importance du mot pouvoir. Donc le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux-là ne sont pas nés du sang ni de la chair. Donc là, on va voir justement l'importance de cette mention. Mais ils ne sont pas nés d'un vouloir d'homme, mais ils sont nés de Dieu. D'où la difficulté, en tout cas l'importance de ces deux chapitres que nous allons évoquer pour parler de la visite du ressuscité. Parce que là, il s'agit de l'enjeu, justement, c'est que cette visite permet aux disciples de devenir enfants de Dieu, non pas d'un vouloir d'homme, non pas de la chair et du sang, mais selon l'initiative de Dieu. Voilà, donc on est dans le programme, hein, vous avez le mode d'emploi. Ça va nous permettre de mieux comprendre ces deux derniers chapitres. Voilà. Et puis on verra que cette visite a des conséquences prodigieuses sur l'avenir des disciples et aussi sur l'avenir de l'Église. Alors,
ça c'est Jean 12.
Non, ça c'était non. Jean 1 au verset 12. Hein. Je vais juste citer dans le prologue le verset 12. Alors ici, donc vous voyez, on va regarder, j'ai commencé à partir du verset 11, puisque c'est là que finalement Jésus, à partir du verset 11, c'est là qu'il est mention justement d'une visite, d'une apparition, de la mention de Jésus présent et de Jésus ressuscité. Alors maintenant, on revient au chapitre 20, pour lequel vous avez ici une feuille. Voilà, je pense qu'il en reste une là. Donc c'est ici, voilà. Donc voici, alors on pourrait, comme je vous ai dit, il n'y a pas de terme spécifique, il n'y a pas de terme technique pour parler de cette visite chez Jean. Mais on voit Jésus qui apparaît, qui est là. Et pour parler de cette visitation, eh bien, Jean utilise un vocabulaire extrêmement banal. Il est là, il se tient là. Hein, en grec, c'est le verbe « istemi » qui est employé une centaine de fois, 155 fois dans le Nouveau Testament. C'est se tenir debout, être là. Mais quand même, il y a cette connotation de se tenir debout. Dans le verbe « istemi », en grec classique, hein, j'entends, ça veut dire se tenir debout, ça c'est le terme essentiel, mais ça veut dire aussi se dresser. Alors vous voyez bien qu'il y a la connotation de la résurrection, hein, qui est cachée dans ce terme. Mais ça veut dire aussi, c'est ce qu'on utilise aussi pour dire une injonction, « allez, debout », on dit le même terme. Mais c'est aussi un des usages de ce verbe, c'est « placer, établir, maintenir, comparaître ». Et ça va jusqu'à décréter, instituer, imposer, ordonner. Donc quand on parle de la présence, la visite de Jésus, on utilise ce terme qui en grec classique a des sens extrêmement étendus. Mais on va dire dans l'évangile de Jean, il est là, il est debout, il est là, point. Et on pourrait dire que dans ce terme, dans l'usage d'un terme aussi banal, il y a quand même cette idée de fermeté, d'assurance, d'autorité, hein, et je dirais d'évidence, il est là, ça ne se discute pas. Et puis il y a un deuxième terme qui est utilisé dans les passages que nous allons lire, il y a le verbe erkomai qui lui traduit plus le mouvement, hein. Il se tient, alors je regarde, vous l'avez ici, plutôt à partir du verset 19, vous voyez, Jésus vint. Et il se tint au milieu d'eux, donc Jésus vint, hein, dans la deuxième partie du chapitre 20, à partir du verset 19, on a effectivement l'idée de « il arrive, il vient, il s'approche aussi hein, », ça veut dire « il s'approche ». Donc on a, dans ce deuxième verbe qui parle de la visite, on a plus l'idée d'un mouvement, et il se tient au milieu d'eux. Alors, la première idée qu'on a, enfin la première impression que laisse ce texte, d'abord, avec juste la mention de ces deux verbes pour parler de la visite, eh bien, c'est que Jésus a l'initiative. C'est Jésus qui a l'initiative de la visite. Il n'est pas invité. Vous voyez que c'est un renversement par rapport aux évangiles synoptiques ou par rapport à ce qu'on est habitué de connaître de Jésus. Il n'est pas invité chez les uns, chez les autres. C'est lui qui prend l'initiative. C'est lui qui va à la rencontre des disciples désorientés. Et on pourrait dire aussi des disciples quand même résignés, parce que ben voilà, on part d'une situation sans appel, Jésus est mort et il n'y a rien à faire, on ne peut pas revenir en arrière. Alors là, il va y avoir la deuxième mention que je voudrais aussi vous donner, c'est que on a appelé ce passage, donc à partir du verset 19, hein, on va voir les différentes, comment articuler ces passages, mais le deuxième passage de ce chapitre 20, il est appelé la petite Pentecôte. On ne devrait pas l'appeler la petite Pentecôte, on devrait aussi l'appeler la Pentecôte. Parce qu'en fait, chez Matthieu, chez Marc et chez Jean, Pâques et le don de l'Esprit, c'est le même événement. C'est en même temps, c'est contemporain. C'est Luc qui a bien séparé le don de l'Esprit de la Pentecôte, qui l'a mis plus tard, 50 jours plus tard. Là, c'est vraiment la même chose. Donc, il y a aussi une connotation très forte, donc de résurrection, se tenir debout, d'une initiative du ressuscité, et puis enfin une autre connotation qui est celle justement de l'Esprit Saint, puisqu'il va y avoir le souffle de l'Esprit Saint. Donc il y a là aussi un don et l'idée de la Pentecôte. Alors maintenant, je vais pas aller trop dans le détail, parce qu'il faut vraiment que je parle de l'articulation des textes. Alors, comment sont articulés ces textes que j'ai choisis? C'est moi qui ai délimité. Donc, j'ai pris à partir du verset 11, il s'agit de Marie de Magdala. C'est elle qui est la première visitée par le ressuscité. Alors, je tiens à vous faire remarquer que dans l'Épître aux Corinthiens, la première Épître aux Corinthiens au chapitre 15, on fait la liste des personnes à qui, des témoins du ressuscité à qui Jésus est apparu, et on oublie Marie de Magdala. D'accord ? Parce que c'est la seule femme. Donc, C'est, oui, dans notre périple, enfin, dans notre passage, c'est elle qui, la première, voit le ressuscité. Donc ça va du verset 11 au verset 18. Après, du verset 19 au verset 29, il y a donc la visite de Jésus dans un lieu fermé, cadenassé, verrouillé, qui est celui des disciples qui se protègent des Juifs. C'est la deuxième apparition, ou la deuxième visite. Et puis on verra, au chapitre 21, une troisième visite. Mais ça, j'irai peut-être un tout petit peu plus vite sur le chapitre 21, parce que c'est aussi un texte qui a été ajouté, et qui est lui aussi un texte programmatique. Ça veut dire, dedans, il y a un programme pour nous, hein, pour l'Église, et c'était ajouté par la suite. Donc je vais surtout m'intéresser au chapitre 20, pour mieux comprendre, Jésus ressuscité devant nous. Alors, d'abord, quand on prend des stylos de couleurs et qu'on cherche les occurrences, les répétitions, etc., on voit qu'il y a des répétitions fréquentes concernant le champ sémantique du voir, hein, lié au registre de la vue. Vous voyez, moi je l'ai mis ici dans mon avec mes petites couleurs, je l'ai mis en bleu. Vous voyez que c'est vraiment très fréquent. Ça, c'est ce qui tisse le texte. On parle souvent de voir. Alors, on va voir justement qu'il y a une progression dans les termes qui marquent la vue. Et on voit que voir est associé tout le temps à croire. Hein, au verset 8, c'est voir et croire. Au verset 18, quand il dit, quand Marie de Magdala dit « J'ai vu le Seigneur », et qu'elle croit. Au verset 25, quand les disciples disent à Thomas « Nous avons vu le Seigneur ». Et enfin, au verset 29, quand Jésus donne cette béatitude, cette bénédiction, « Heureux ceux qui ont vu, qui n'ont pas vu et pourtant qui croient ». Voilà. Donc c'est toujours associé le voir et le croire. Alors, quelle est la particularité de Jean dans ce récit, on va dire, post-pascal ? Ça veut dire qui mentionne les événements qui se sont passés après Pâques. Eh bien d'abord, ici, il n'y a qu'une femme, alors que dans les autres évangiles, il y a deux femmes, ou chez Luc, il y a plus des femmes. Et on voit ici que c'est la femme, Marie de Magdala, qui jouit de la primauté. C'est à elle, c'est elle la première, le premier témoin du ressuscité. Et la particularité aussi de Jean par rapport aux autres évangiles, pour parler de la résurrection, c'est que lui, il fait encore nuit, il fait sombre. Alors sans doute, vous comprenez, avec le prologue, c'est aussi une mise en valeur de la lumière de la résurrection. Donc c'est un contexte particulier chez Jean. Alors, il y a aussi une autre occurrence qui est régulière, c'est le verbe savoir. Hein. Je ne sais pas où on l'a mis, je ne sais pas si on l'a volé, je ne sais pas qui l'a pris, en parlant du corps du cadavre. Et il ne savait pas, le terme ne pas savoir est aussi très fréquent. Enfin, on voit qu'il y a dans ces passages, donc à la fois dans Jean 20 et dans Jean 21, il y a en fait une sorte de, je ne dis pas de concurrence, mais en tout cas, il y a une course à deux entre le disciple que Jésus aimait, qui lui est extrêmement rapide à courir, hein, puisque c'est lui qui arrive le premier au tombeau, et puis rapide à croire aussi, parce que c'est lui qui reconnaît Jésus au chapitre suivant, au chapitre 21, et puis Pierre. Donc ces deux protagonistes ont leur importance. Alors, on a vu les personnages, voilà, on a dressé un peu le décor et on a placé les personnages sur la scène. Alors ici, je reviens donc maintenant verset par verset. Donc Marie de Magdala, elle est restée en dehors du tombeau et elle pleure, hein, pendant que les disciples, eux, sont rentrés. En fait, Pierre est rentré dans le tombeau. Elle reste dehors et elle pleure en se penchant. Et on voit qu'elle est donc interpellée par deux anges. Et ces deux anges, en fait, à la différence aussi des autres évangiles, ben, ils lui donnent aucune indication, ils lui posent des questions. Mais pourquoi pleures-tu? C'est la seule chose qu'ils peuvent lui faire, pour l'aider, mais pour l'aider à rentrer en elle-même, mais pour quelle raison est-ce qu'elle pleure? Mais ils ne donnent pas d'interprétation, il n'y a aucun sens qui est donné de la part des anges, aucune aide. Ils ne révèlent rien du sens du tombeau vide. Et on va voir justement, c'est toute la force de l'évangile de Jean, c'est que Jésus a l'initiative. Et tout vient de sa personne. Le sens va se dérouler et le sens va nous être donné à partir de sa personne. Voilà. Et c'est lui qui aussi va l'interroger d'ailleurs sur ses larmes. Alors, il lui dit aussi, « Femme, pourquoi pleures-tu ?» La même chose, sauf qu'il ajoute, lui, « Qui cherches-tu ?» Alors qu'elle, elle cherche plutôt quelque chose. Elle cherche un corps, elle cherche un cadavre. Et lui, il dit tout de suite, « Qui cherches-tu ?» Donc déjà, il est en train d'orienter sa propre attitude, ses propres impressions, l'attitude de Marie.
On voit la différence entre le « qui » et le « quoi »
Oui. Oui, oui.
C'est intéressant.
Alors, et il cherche un cadavre de face. Alors, elle cherche un corps de façon assez obsessionnelle. Vous avez remarqué qu'on a enlevé mon Seigneur. Et au fond, la vraie question qu'elle se pose, c'est qu'elle ne sait pas où. La question qu'elle se pose, elle, c'est où est-ce qu'on l'a mis? Donc, il est mort, elle est comme tout un chacun, comme nous tous. Ben voilà, quelqu'un est mort, on cherche le corps. Et on sait l'importance du corps quand quelqu'un est décédé. L'absence du corps est traumatisante. Alors, donc, et ça, c'est tout à fait le style de Jean, c'est-à-dire que lui, il travaille à partir des ignorances et des malentendus des personnages. On voit bien qu'il y a un contexte de méprise, elle pleure pour un corps mort, introuvable, elle cherche où. Et en plus, la deuxième méprise, c'est qu'elle prend Jésus pour le jardinier. Voilà, bon. C'est tellement impossible, c'est comme nous tous, la résurrection c'est tellement quelque chose d'impossible qu'on ne peut être que dans des approximations et dans des méprises. La résurrection c'est pas quelque chose d'évident. Voilà. Alors c'est très intéressant parce qu'on voit que la question de Jésus va la porte beaucoup plus loin. Il lui dit pourquoi tu pleures et qui tu cherches, et non qu'est-ce que tu cherches. Alors au verset 16, vous voyez qu'au verset 16, là, c'est là que le texte bascule. On a un basculement du texte. Je vais fermer la porte parce que... À partir du verset 16, le texte bascule. Et vous voyez, alors c'est à vous de me dire, pour quelle raison est-ce que le texte bascule ? À partir du verset 16, il y a... On peut plier le texte en deux, cette péricope.
C'est lui qui prend c'est lui qui prend la... À partir du moment où il lui parle, où elle lui saute, on a le verset 16, après c'est...
Mais il lui parlait déjà avant.
Non, mais elle le reconnaît.
Oui, non, elle ne le reconnaît pas. Il l'appelle par son nom, en fait. C'est juste parce qu'il l'appelle.
Oui, il l'appelle par son nom.
Il l'appelle par son nom. C'est lui qui la reconnaît.
Oui, c'est lui qui.
Voilà, c'est-à-dire, c'est pas à nous de reconnaître le ressuscité, c'est peut-être à nous de nous laisser reconnaître par le ressuscité. C'est parce que c'est impossible de reconnaître le ressuscité, comme ça, avec ses seules aptitudes habituelles. Donc à partir du moment où elle est reconnue comme personne, dans son identité propre, un prénom, c'est la personne, Marie, vous voyez qu'en plus, le texte, il joue. Elle se retourna. Enfin, évidemment, en grec, se retourner, c'est la conversion. Donc, elle fait un tour sur elle-même. Elle n'est déjà plus la même.
C'est quoi, c'est la métanoïa ?
Oui. C'est ça, c'est la même chose. et elle dit en hébreu, « Rabouni ». C'est bon, on nous dit la traduction. Alors, voilà, c'est donc très important. Alors, évidemment, ça rappelle dans l'évangile de Jean, Jean 10, vous savez, le texte sur Jésus berger. quand il parle de ses brebis, le berger qui donne sa vie pour ses brebis, eh bien en fait, les brebis, il les appelle chacune par leur nom, hein, dit le texte, et il les emmène dehors. Et elles reconnaissent sa voix. Mais il les emmène en dehors de l'enclos. Et là, en quelque sorte, on peut dire que Jésus l'a sorti de son obsession, hein, l'a sorti de cette espèce de désir de trouver le corps du mort. Hein. Voilà. Donc c'est important. Ça fait une...
Oui. En même temps, il n'y a aucune émotion.
Voilà, c'est pour ça que c'est si fort. Et on n'est pas du tout, si vous voulez, dans l'exposé de sentiments ou de subjectivité. Hein. C'est extrêmement sec. Il y a une sorte d'effectivité. Mais si vous voulez, quand on voit les termes qui sont utilisés, on voit bien qu'il y a derrière des nuances concernant la résurrection et concernant finalement peut-être l'attitude que nous maintenant on connaît, c'est-à-dire devant le ressuscité, on est obligé d'être retourné, on est retourné. Elle se retourne, mais en fait elle est déjà retournée.
Oui, excusez-moi, vous avez dit conversion. Conversion,
oui.
J'ai envie de présenter, mais à quoi ?
Ben non, parce que se convertir en grec, c'est changer d'orientation. Tout bêtement. C'est se retourner, c'est très physique. C'est pas du tout...
Elle admet ce qu'elle voit.
Elle admet ce qu'elle voit parce qu'elle est reconnue.
D'accord.
C'est important quand même, parce que d'une certaine manière, enfin, je sais pas comment vous voyez les choses, mais... finalement, c'est lorsqu'on est reconnu dans ce qu'on est profondément qu'on est sensible à ce que nous disent les autres. Et parce qu'on est interpellé, c'est nous et pas quelque chose de général. Et ce n'est pas une approche intellectuelle ou dogmatique ou une constatation scientifique. Il s'agit d'une relation. Hein, puisque, oui.
Il la nomme par son nom.
Il la nomme par son nom.
Alors qu'avant, il l'appelait femme, là. Là, il lui dit Marie, et c'est à partir de ce moment-là qu'elle...
Voilà, et comme elle le connaissait, si vous voulez, il utilise le nom, il réactive la relation passée qu'il avait avec elle, en fait.
Bah, oui.
Donc c'est comme ça aussi qu'elle le reconnaît. Donc finalement, je pense, ce qui est aussi pour ce que dit le texte, c'est que finalement, la résurrection, on la reconnaît par la relation qu'on a. Et par la réactivation d'une relation qu'on a eue ou qu'on entretient avec le ressuscité. Oui.
Je pose une question sans vouloir faire de visitare en latin, veut dire aller voir plusieurs fois. C'est
oui.
Fréquentatif.
Oui.
Je me pose la question. Alors c'est vous qui me répondez. Je suis pas assez ferré. Est-ce que voir, c'est pas donner aussi un visage, wis? Alors, je ne sais pas si...
Si, parce qu'en grec, il y a ça donné prosopone, qui est le visage, voilà. Oui, oui, en grec, hein, voilà. Alors, ce n'est pas visiter, c'est venir, hein, voilà.
Venir plusieurs fois, et pourquoi ?
Oui, parce que, attendez, mais c'est tellement banal comme terme, hein, que, oui, c'est un verbe, aller, venir, c'est pareil, hein. Voilà, mais ce verbe-là a donné effectivement le terme visage, donc il s'agit bien d'une relation personnelle. Hein. Comme on dit en hébreu, penel ay penel, ça veut dire face à face. Hein. C'est deux personnes, c'est deux visages. Hein, donc il s'agit bien effectivement d'une relation intime, d'une relation singulière. Voilà. Donc je crois que c'est quand même très important hein, ce moment où Marie se retourne et finalement le reconnaît comme maître. Hein. Alors vous voyez que là Jésus intervient, ne me retiens pas. En fait, en termes grecs, c'est ne me touche pas. Hein, voilà. Bon, en latin, on le sait. En
latin, on a mis sur terre avec plein de tableaux.
Oui. voilà. bon. Là, ne me touche pas.
Hein, ne me touche pas.
Ben, ça veut dire vraiment ne me prends pas, ne m'en sers pas dans ce que tu peux connaître ou dans ce que tu peux retenir. Hein. Alors, évidemment, car je ne suis pas encore montée vers mon Père, et montée vers mon Père, ça c'est évidemment une connotation théologique très forte. Hein. C'est-à-dire, Jésus, là pour le coup, n'est pas seulement le maître de sagesse, n'est pas seulement le Galiléen, c'est aussi le Fils de Dieu. C'est vraiment là, sa dimension divine est signifiée par le fait de monter vers le Père, vers mon Père. Va trouver, et alors c'est important parce que d'abord on parle de vers mon Père, pour toi va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. Donc là, il y a vraiment le fait que Jésus est Fils de Dieu et qu'il intègre entre guillemets sa pleine divinité, fait de nous des enfants. Vous voyez, c'est pour cette raison que je vous ai lu le verset 12 dans le prologue. Hein. On est enfant de Dieu par l'initiative de Dieu et par, ce n'est pas de chair et de sang, pas de manière humaine, pas de façon humaine, mais de façon divine, hein, de façon spirituelle et de façon divine. Alors,
excusez-moi, vous pouvez expliquer, ne me retiens pas, car je ne suis pas encore montée vers mon Père.
Alors, ne me retiens pas, c'est-à-dire, comment est-ce qu'on pourrait l'entendre? Ça veut dire, ne fais pas de moi un cadavre, ne fais pas de moi un seul corps, et ne fais pas de moi un cadavre qui est ressuscité, qui est à nouveau vivant. C'est ça que ça veut dire aussi. Hein. Ne fais pas de moi, ne fais pas de mon passage une stricte marque corporelle. Parce que je suis à la fois homme et frère, mais je suis aussi fils de Dieu. C'est dans toute ma divinité. Et peut-être que tu me trouveras davantage dans autre chose que dans la trace physique. Alors c'est important parce que après on va avoir Thomas hein, qui veut toucher lui justement. Hein. Donc c'est très important cette dimension concrète hein, qui déjà est écartée. En tout cas voilà ce que dit Jésus. Et ça veut dire en fait ne t'en tiens pas à ma seule présence physique. Oui.
Dieu Elohim, Dieu créateur, Dieu...
Ah, alors ça, non, il n'y a pas à choisir. Non, c'est le Père. Voilà, alors c'est pour ça que je pense que tu m'avais dit que c'était un sujet pas facile, parce que pour certaines... Voilà, pour certaines personnes, respecte, Jésus n'est pas fils de Dieu.
Il est fils du Père, dans la Trinité.
Ou il n'est même pas, il ne croit pas à la...
Tout en étant fils du Père, mais le Père est différent de Adonai.
Oui, et puis si vous voulez, même pour certains, la Trinité, c'est un montage, c'est un produit dérivé. Pour certains, j'entends. Hein.
Dès le début du christianisme...
En valorisant la Trinité, c'est justement la Trinité est différente. Le Dieu, le Père est différent de le Dieu...
Écoutez, je ne sais pas. Nous, là, pour Jean... Alors, bon,
c'est pour savoir le terme Dieu dans Jean.
Non, c'est mon Père, et ça, c'est Théos. Hein. C'est Dieu.
C'est Dieu.
C'est Dieu. C'est,
pas autre mot
non, c'est un
Dieu,
terme générique, ouais. Mais... voilà. Donc, on ne peut pas se prononcer... Si, on peut se prononcer sur Dieu comme étant Père. Là.
D'accord.
Bah, on s'en tient au texte. Hein.
Non, et puis les...
Oui.
Peut-être juste une question, je ne sais pas si vous avez la réponse, mais pourquoi avoir choisi le terme « retenir » à la place de toucher, vu l'importance justement du toucher dans la suite du texte.
Mais on verra justement. Hein.
Parce que c'est vrai que c'est...
Alors, je pense que c'est déjà une interprétation.
Ouais.
Mais on peut dire aussi retenir, c'est-à-dire quand je touche, je tiens. Mmh. Hein, et je retiens. Mais c'est un choix.
C'est aussi le travail du traducteur.
Oui, c'est aussi un choix.
Parce que le texte originel a été écrit en grec ancien.
Non, c'est du grec, c'est pas un texte très raffiné, mais enfin, c'est pas un texte classique, en grec classique.
Voilà.
Mais voilà, bon, on va voir justement la question de... Bon, pas trop...
Ce qui fait penser, c'est pas écrit tout d'abord en hébreu et après traduit en grec hein.
Non.
Parce qu'étant donné que Jean est...
Non.
C'est bon. Pourquoi ça, puisque ça serait plutôt sa langue maternelle, hein, comme ça se fait,
mais parce qu'on écrivait les textes en grec, surtout Jean.
C'était la langue internationale.
Non, mais ça a été écrit après. Hein.
Bien, c'est écrit
alors,
après,
donc,
d'ailleurs.
C'est en grec.
Oui, c'est écrit après. C'est pas écrit sur le moment. Et Jean était un théologien. Enfin, et donc, alors ça s'accorde des histoires. C'est écrit après. Ça, c'est sûr.
Bien
on a
après,
des mentions.
On dit Jean, bien après.
Oui, bien après même. On a des mentions historiques qui montrent que ça a été écrit bien après.
Donc l'original est en grec.
Et bien sûr en grec.
En grec, oui.
Ouais.
Ce serait naturel que vous, si vous écrivez, vous écrivez en français.
Non, mais on n'est pas dans le même contexte. C'est, ouais, vous voyez, c'est, vous aviez à l'époque la langue, des langues vernaculaires et puis des langues plus savantes, qui étaient des langues réservées à l'écrit, qui laissent justement des traces. Donc,
au Moyen-Âge, c'était encore...
Oui, voilà. Mais voilà, c'était en grec. Donc, si, voilà. Fils de Dieu, je ne sais plus, j'en sais. Voilà. Donc, on voit que finalement, c'est la présence de Jésus et sa relation qui va changer le regard de Marie de Magdala, parce qu'elle continue à voir. Elle dit, à la fin, au verset 18, elle dit « J'ai vu le Seigneur ». Mais c'est une autre manière de voir. Jésus lui dit « Ne me retiens pas, ou en tout cas, ne me touche pas, dans le sens... Ne me vois pas seulement comme une stricte présence physique ou une seule présence physique. Vois-moi déjà autrement. » C'est ça que ça veut dire. Donc, vous voyez que... Alors ici, il s'agit bien de mon Père, Père de Jésus, qui devient votre Père. Donc, c'est très important parce que là, il y a vraiment l'adoption. Donc, et vous voyez aussi qu'il est impossible de se prononcer sur le statut objectif de la résurrection. Jean ne le fait pas. Personne ne le fait. Il s'agit d'une relation entre deux personnes. Le ressuscité, là pour l'instant, Marie de Magdala. On ne peut pas se prononcer sur la résurrection de manière objective. Ça n'existe pas. Mais on ne peut que constater que Jésus est là. C'est tout. C'est-à-dire que ce n'est pas un processus objectif. Il ne dit pas, voilà, regarde, j'ai fait comme ci, comme ça, il m'est arrivé ça, j'ai dormi pendant 2 jours. Voilà, on ne sait pas. C'est simplement là parce que c'est pas toujours simple pour nous d'appréhender la résurrection. Et on voit qu'elle s'appréhende dans la relation. C'est important.
Et Marie de Magdala, on en parle beaucoup avant.
Oui, bien sûr. Oui.
Elle est cousine ou pas?
Non, mais alors, je ne vais pas revenir... Non. Je ne vais pas revenir parce que là, on va partir encore dans des histoires sur les maris. Parce qu'il n'y a pas... Voilà, il y a plusieurs maris, après le qui, laquelle... Bon, on va laisser un peu comme ça. Juste pour s'intéresser au mouvement du texte, parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce texte. Hein. Donc, on pourra voir après comme ça en dehors, mais là, pour l'instant, on avance dans le texte. Hein. Alors... Donc, au verset 19, Donc, Marie, Marie dit, j'ai vu le Seigneur et voilà ce qu'il m'a dit. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé dans son regard, dans sa façon de voir. D'accord ? Elle a vu deux anges qui n'ont pas pu lui donner le sens du tombeau vide. Ensuite, elle a vu Jésus, mais elle l'a pris pour un jardinier. Elle n'a pas réussi à voir le corps. Et là, cette fois-ci, elle voit le Seigneur et voilà ce qu'il m'a dit. Donc, c'est bien que le voir est changé par une parole. D'accord ? Et cette parole qui est personnalisée. Voilà. Donc, ça, c'est cette première partie. C'est très important parce qu'au fond, elle va donner aussi des clés d'interprétation de la suite. Alors, cette deuxième partie du chapitre 20, c'est, ça se passe... le soir même de ce jour. Donc, c'est le premier jour de la semaine, c'est le dimanche soir. Et voilà que les disciples sont... ils sont 10. Hein. Alors, il y a un exégète qui parle, lui, de... Alors, j'ai sa formule, là. Il dit les 10 séquestrés du dimanche soir, il les appelle. Hein. Parce que ils ont verrouillé les portes, ils ont peur. Hein. Vous voyez qu'ils se méfient des autorités juives. Et voilà, et ils sont 10 bien sûr.
Hein. Pourquoi 10?
Parce que Thomas n'est pas là.
Ah oui, Thomas.
Et puis bon, Judas est déjà mort.
Ah ben Judas, oui, d'accord, mais moi je pensais 11, moi c'est pour ça.
Voilà, bon. Donc voilà, alors là, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on insiste sur l'absence de Thomas. On insiste sur l'absence de Thomas. Qui veut dire que Thomas, l'absent, va avoir un rôle très important de révélateur. Le fait de ne pas être là Parce que si vous voulez, ça va permettre de faire une séance de rattrapage et de montrer peut-être deux choses entre les deux visites. Alors cette première visite, eh bien effectivement, on a la divinité de Jésus. Alors on a des effets spéciaux là, hein. Puisque les portes sont verrouillées et voilà que Jésus est là. Hein, donc il passe muraille. On peut dire ça. Enfin, nous, on pourrait dire ça comme ça.
Bah oui, Jésus vint.
Il vint. Et en plus, bon, bah, il vint, c'est tout naturel, quoi, hein, avec ce verbe tellement simple. Ensuite, on voit bien aussi qu'il est monté vers le Père, donc au chapitre 17, on voit bien que Jean insiste sur la divinité de Jésus. Et puis, on va voir justement que le cœur de ce passage, c'est le don de l'Esprit dont on va parler, hein, avec la capacité à donner le pardon. Alors, voilà, il arrive, il est là. Il est là, les portes sont verrouillées, et sa première parole, c'est la paix. Alors, la paix, évidemment, c'est le shalom hébreu, c'est-à-dire des relations harmonieuses, pleines et épanouissantes avec Dieu et avec les autres. C'est ça, le shalom. Hein, le shalom hébraïque, c'est une formule, dans les échanges interhumains, mais c'est aussi cette façon de dire, ben voilà, tout est bien, tout le monde est à sa place et on a des relations sereines, harmonieuses. Donc voilà, Jésus est là, c'est tout naturel et il donne sa paix. Et vous voyez que là, il montre ses mains et son côté. Il montre ses mains et son côté. Ce qui nous montre bien que Jésus a compris que c'est pas si simple, que il pourrait être, parce que vous, je sais pas si vous venez dans les évangiles synoptiques, il pense que c'est un fantôme. Donc là, il montre les traces de la crucifixion. Donc on voit bien que la résurrection est intimement liée à la crucifixion, à la croix. C'est impossible de parler de résurrection en faisant l'économie et en éludant l'épisode de la croix. Ensuite, oui, parce que chez Jean, en plus, quand il parle de la croix, il parle d'élévation en croix. C'est-à-dire que c'est une gloire, la gloire de Jésus, et la gloire de Dieu, c'est la croix. Hein, c'est plus que la résurrection encore, c'est la croix. Donc on voit bien qu'il ne s'agit pas de scinder deux événements du genre, la croix était un épisode préparatoire, pour l'essentiel, c'est la résurrection qui montre la divinité de Jésus. Non, c'est ensemble. C'est vraiment la même situation.
Même il est obligé de faire ça. Parce que c'était une humiliation suprême d'être crucifié.
Oui.
Donc il est bien obligé de dire, de convertir cette humiliation en élévation et en
voilà.
Gloire.
Oui, sinon, exactement. Mais c'est pas qu'il est obligé, c'est que ça a vraiment un sens profond, en fait.
Complètement infamant.
Oui, c'est infamant. Et de cette infamation émane la gloire. C'est, voilà. Donc ça, il est...
Les deux larrons, qu'est-ce qu'ils font quand ils sont partis au ciel?
Ça, on ne sait pas, heureusement, parce que vous imaginez... Voilà, il y en a un qu'on sait qui est prêt. Mais vous imaginez, si on savait tout ce qui se passait après la mort, vous imaginez déjà qu'on se juge sur pièce et d'après les apparences. Vous imaginez comment on pourrait... se faire du mal si on savait ce qu'il y avait après la mort. Hein. Ça serait l'horreur. Hein. Donc on ne sait rien. Et on les laisse, les larrons. Voilà. Peut-être qu'on s'identifie à l'un d'eux, mais on ne sait pas trop. Hein. Alors là, on voit que le registre du voir, lui aussi, change. Alors on a vu que Marie avait déjà compris au départ, si vous voulez. Alors je vais revenir sur le registre des termes du voir, puisqu'il s'agit... Il leur montre ses mains et son côté, et en voyant le Seigneur, les disciples furent tout à la joie. Alors, quels sont les verbes qui sont utilisés pour parler du voir dans le chapitre 20? Alors, au verset 1 qu'on a vu au tout début, hein, et au verset 5 dans l'évangile dans le chapitre 20, on a le verbe blepo, hein, qui veut dire c'est la vision physique, c'est la vision, on va dire, extérieure, optique. Hein, il voit, c'est la faculté d'observer qui permet de constater, par exemple, que Marie, elle constate que la pierre n'est plus là, que les bandelettes sont pliées, roulées, par exemple. Hein. Mais ça ne donne pas la possibilité de comprendre le sens. C'est quelque chose d'objectif et presque de physique. Ensuite, mais on voit qu'il y a une progression dans le voir parce que, parce que j'ai pas mis ce passage, mais au verset 6 du chapitre 20, au verset 12, donc elle voit deux anges, hein, au verset 14, elle voit Jésus qui se tenait là. C'est une vision réflexive, c'est une vision qu'on utilise pour parler de la contemplation, pour parler de la prise en considération par l'intellect. C'est-à-dire, je réfléchis. Hein? Donc, on peut voir, et c'est une vision qui donne à penser.
Mais c'est deux termes différents.
Hein? Deux termes différents. Hein? Théoréo, c'est-à-dire les théories. D'accord ? Hein? Je constate, je prends en considération, je réfléchis. D'accord ? Donc, il constate, c'est ce que mes yeux constatent, et ça me donne, je vais commencer à réfléchir. Donc, je trouve par moi-même un sens. Par moi-même, je trouve du sens. Alors, le problème, c'est que, évidemment, cette manière de voir le ressuscité, elle peut facilement se transformer en projection de soi-même. Hein. Elle cherche le corps, elle pense qu'on l'a volé. Donc, c'est un voir peut-être habituel, mais c'est un voir qui est qui ne fait pas l'économie du piège. On peut être piégé par d'autres réflexions. Et elle ne permet pas de comprendre le sens réel de ce phénomène de la résurrection. C'est un voir incomplet. Même s'il est important, il est incomplet. Et puis, au verset 18, quand Marie dit « J'ai vu le Seigneur », eh bien là, cette fois-ci, c'est « orao », hein, c'est justement le verbe qui a donné... je me suis trompée tout à l'heure... Hein, c'est ce verbe qui a donné visage. C'est le fait de donner figure. Hein. C'est-à-dire, ça permet d'être en relation. Je vois et je suis donc dans une relation avec ce que je vois. Et là, elle voit Jésus, elle est dans une relation de foi. Et là, les disciples, c'est le même verbe, ils voient Jésus, ils sont tout à la joie. Ils sont déjà dans une relation, dans une vision qui est une relation. Et ça permet de relativiser le voir optique ou le voir théorique et de mettre en avant le voir de la foi. D'accord ?
Donc en fait, lorsqu'elle voit au verset 14, lorsqu'elle voit Jésus, en fait, c'est une vision physique influencée par ses sens.
Oui, par ses sens, c'est même sa réflexion. C'est notre. On voit parce qu'on a l'habitude de voir, donc on tire des conclusions, on réfléchit. Voilà. Mais quand elle dit j'ai vu le Seigneur, et quand les disciples sont à la joie, c'est un autre verbe qui est un verbe qui a donné visage. C'est ce qui me permet de donner visage et moi aussi d'être visage, donc d'être vis-à-vis, d'être dans une relation étroite. Alors, et aussi physique, hein, non, aussi physique. Être dans une relation d'intimité et de relation étroite avec ce que je vois ou celui que je vois. Vous voyez, c'est pas la même... Et du coup, c'est ça le voir de la foi.
C'est pour ça que c'est traduit « j'ai vu le Seigneur ».
Exactement. Mais c'est un autre voir.
En voyant le Seigneur, c'est un autre voir. Parce qu'il y a une différence entre elle voit Jésus qu'elle ne reconnaît pas et quand elle dit « j'ai vu le Seigneur », elle le reconnaît.
Elle le reconnaît vraiment. Voilà. Et la même chose pour les disciples.
La même chose pour les disciples.
Voilà. C'est pour ça que...
Pourquoi la traduction est bien pauvre ?
Non, on peut pas, c'est le français.
Non, mais ça mérite une périphrase. Oui. Tellement c'est important.
C'est très important. Oui,
c'est ça mérite une périphrase.
Oui, tout à fait. Ça mérite un développement et on comprend pourquoi les traducteurs font des choix. Faut pas les accuser d'avoir fait un choix. On comprend, pour nous aider à comprendre, ils font des choix. Et parfois, ce choix, il porte sur le texte ou le verset d'après. Parce qu'il ne peut pas trop changer la formulation. Voilà. Alors, donc vous voyez, c'est quand même très important, là. Il s'est passé quelque chose. Il y a eu une conversion, mais du voir. Hein, un changement dans la vision. Alors, maintenant, ce qui est important, je continue le texte, je vais un petit peu plus loin. Ayant ainsi... Alors, voilà. À nouveau, Jésus leur dit, « La paix soit avec vous. » Comme le Père m'a envoyé à mon tour, je vous envoie. C'est une reprise de la mission de Marie parce qu'elle va voir les disciples et elle leur dit j'ai vu Jésus. Hein, d'accord ? J'ai vu le Seigneur. Donc, si vous voulez, là, on a un rappel. Donc, Jésus envoie il se manifeste et tout de suite, dès qu'il se manifeste en tant que ressuscité, eh bien, il envoie en mission. Il n'y a pas de césure, hein, c'est automatique. Alors, et ce qui est important, il souffla sur eux et il leur dit « Recevez l'Esprit ». Alors, souffler, ça montre bien que là, l'Esprit Saint, c'est ce qu'on appelle la petite Pentecôte, donc la présence, l'Esprit de l'Esprit Saint, c'est la présence effective de Dieu, la présence active dans l'histoire de Dieu, hein, la présence puissante de Dieu. Il souffle sur eux. C'est le souffle de la création, le souffle de Genèse. Donc il s'agit là d'une nouvelle création. Il est en train de... Jésus, en donnant l'Esprit aux disciples, il les crée en quelque sorte. Il les crée disciples. Il crée une nouvelle réalité dans la relation entre lui et les disciples. C'est très important, ça. Hein. Oui.
C'est peut-être une question de pourquoi est-ce qu'il... Pourquoi il ne le fait pas avec Marie
Magdalene ? Je ne sais pas. Le texte, c'est, de toute façon, c'est très intéressant dans un texte. C'est comme quand on lit un roman, il y a une progression, il y a des rebondissements et des épisodes, on nous tient la main. Vous voyez ? On nous guide et on va de révélation en révélation. Si on met tout d'un coup dans un seul épisode, ça devient indigeste. Là, on avance progressivement verset par verset. Vous voyez ?
Oui,
je pense. Hein.
Bon, on peut supposer qu'elle est parmi eux, hein, de toute façon, puisque elle va leur annoncer aux disciples. Alors donc, si elle l'annonce aux disciples, elle est parmi eux.
Oui, bien sûr. Oui, oui.
Donc, elle peut être aussi sous-entendue.
Hein, là, on ne sait pas. Là, on ne sait pas trop. Hein, bon, voilà. Suppute. Hein, voilà. Oui.
Par contexte de l'époque, femme seule.
Que Jésus, en souffrant sur les disciples, qui crée une réalité nouvelle,
oui,
avec cet esprit, l'esprit de Dieu qui le reçoit. Bon, au début de Actes aussi, après les apôtres, ils ont reçu le Saint-Esprit.
Oui.
Mais c'était. Moi, je me pose la question, c'est pas le même. Ils ont reçu alors deux fois le Saint-Esprit, alors, parce que normalement, les 10 disciples qui étaient présents. En ce moment-là, j'ai reçu le Saint-Esprit. Ce sont les mêmes aussi.
Oui, mais alors nous.
Une deuxième fois,
oui, mais si vous voulez, on prend pas le texte. Voilà, on a les textes sont des témoignages.
Okay.
Et chaque texte va organiser sa façon de nous faire comprendre et de témoigner du ressuscité. Donc Jean, il a choisi ça. Okay. Luc a choisi autre chose. Mais on peut pas dire que nous, on est habitués. Du coup, on prend les deux textes, on les met dans le temps, hein, puisque la Pentecôte, c'est apparemment après. Après. Mais c'est pas tellement comme ça. En fait, il faut vraiment plonger dans un texte et accepter sa logique. Voilà. Alors, je continue. Donc, voilà. Et puis, parce que je vous ai dit dès le départ, hein, Jean, chez Jean, comme chez Matthieu et chez Marc, Pâques et Pentecôte, c'est en même temps. C'est le même jour. Alors, ce qui est très important maintenant, l'esprit. Alors, on dit pas trop l'esprit, on pourrait imaginer des effets spéciaux. Mais l'effet spécial, il est là, c'est la capacité de pardonner. Et ça, pour moi, c'est en ça que c'est un texte extrêmement fort. Alors, ce n'est pas le pardon, parce que on nous apprend depuis qu'on est petit qu'il faut pardonner pour être libéré aussi. Hein. C'est pas, il s'agit, il faut pas aller tout de suite trop vite vers ce pardon-là. Hein. On va essayer de voir qu'est-ce que construit Jean en parlant de cette mission et de ce pouvoir. Parce que regardez, à ceux à qui vous remettez les péchés, ils leur seront remis. À ceux à qui vous le retiendrez, ils leur seront retenus. Alors, ce qu'on ne voit pas en français, je sais pas, il y a des enfants devant.
Oui, je vois. Ouais.
Ce qu'on ne voit pas en français, c'est qu'il y a deux temps différents pour les verbes. Et c'est très, très important. C'est-à-dire que quand il dit à ceux à qui vous remettez les péchés, eh bien, en fait, c'est en grec « laoriste ». « Laoriste », c'est le temps du passé simple, du passé composé. Ça veut dire que c'est un acte unique. Un acte unique, exceptionnel, donc décisif. D'accord ? Un acte unique, exceptionnel, donc décisif. C'est comme le passé simple ou le passé composé, c'est un point dans le temps. Hein, sur la ligne du temps, c'est un point. Alors que, quand il dit, ensuite, « et ce... » à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus, et bien cette fois-ci, le temps qui est utilisé, c'est un présent répétitif. C'est un acte ordinaire, répétitif, c'est l'imparfait. D'accord ? Hein, c'est comme le temps de l'imparfait, ça veut dire, ça suppose une durée. En gros, ça veut dire, naturellement, vous retenez les fautes. D'accord. Mais là, exceptionnellement, par le don de l'esprit, il vous est donné le pouvoir, parce qu'en grec, c'est vraiment le pouvoir, de pardonner, exceptionnellement. Et c'est un acte décisif, puisqu'il ne se répète pas. Il n'est pas duratif, il n'est pas banal dans le quotidien. C'est un acte précis. Donc, si, ça veut dire, en gros, si j'essaie de traduire, si une fois seulement et exceptionnellement, vous relâchez les péchés des uns et des autres, eh bien, ils leur seront, ils resteront relâchés, ces péchés.
Donc, ça veut dire qu'il dit aux disciples de ne pas pardonner tout le temps. Non,
écoutez bien. Non, c'est pas ça qu'il dit. Le texte dit, si vous avez le pouvoir de pardonner, pas de manière banale, ou habituelle, on ne pardonne pas, on retient. Mais là, exceptionnellement, il vous est donné un pouvoir exceptionnel, en fait, de pardonner. Ça ne veut pas dire que vous le ferez qu'une fois, au contraire. C'est ça que ça veut dire. Hein. Mais cet acte-là, du pardon, va être décisif. Alors, il peut être multiple, mais il sera toujours décisif. Alors, je continue, ils resteront... Ça veut dire que si vous les retenez comme vous le faites d'habitude, d'ordinaire, eh bien, ils leur seront retenus. Bon, oui, bien sûr, ça va de soi. Mais là, ce qui est exceptionnel, c'est que ce pouvoir... Vous avez la possibilité de relâcher. Alors en grec, aphiemi, qui veut dire pardonner, c'était au départ un terme technique de construction maritime. C'est quand on pardonnait, c'était le terme qui a servi à dire pardon, c'est le terme qu'on utilisait quand on avait terminé de construire un bateau et qu'on le mettait sur la lampe de rancement, la rampe de lancement, pardon, pour l'envoyer sur la mer. Vous voyez, ça veut dire relâcher. Et d'une certaine manière, eh bien, quand vous pardonnez à quelqu'un, vous le faites sortir d'un milieu pour arriver dans un autre, mais vous aussi, en fait. Vous passez d'un monde de rancune ou de lien, vous êtes attaché à la terre, vous ne pouvez pas bouger, à un monde de liberté et d'aventure, en fait. C'est ça. C'est très important, quand même, la question du pardon.
Voilà, donc,
c'est énorme. Vous imaginez le pouvoir que c'est ?
Oui.
C'était un pouvoir énorme, non seulement pour vous, parce que quand on est délié, hein, parce que la rancune lie est un lien, mais aussi parce que vous donnez à l'autre une liberté et peut-être aussi une capacité à être autre. Et vous, puisqu'on est toujours dans le registre du voir, vous êtes dans la capacité de le voir autrement. Vous ne le voyez plus selon les offenses qu'il vous a faites, mais de façon totalement neutre. Donc pour moi, ça, c'est vraiment ce qui est très important. Enfin, et il ne s'agit pas tellement d'un pouvoir au sens juridique du terme, mais il s'agit d'une aptitude spirituelle, en fait, hein, qui est quasi créatrice. Hein, elle vient de l'Esprit Saint, en fait. C'est un don, ce n'est pas du tout un savoir-faire. Et quand je dis que c'est exceptionnel, parce que c'est un don. Ce n'est pas un savoir-faire, une compétence que l'on a et que l'on utilise à tout bout de champ. Et on le sait, parce que quand on commence à pardonner à tout bout de champ, c'est bâclé, et on fait plus de dégâts qu'autre chose. Hein, quand on veut être gentil, qu'on veut pardonner, on a ce qu'on appelle le retour du refoulé, pour parler en langage psychanalytique. Donc, c'est ça qui est dit dans ce texte-là. Et c'est un don de l'Esprit-Saint. Et c'est le don de Dieu. C'est le don même du ressuscitant, c'est-à-dire de celui qui a redonné vie à ce corps supplicié.
Mais est-ce que ce n'est pas surtout nous que nous libérons?
Oui, les deux. Mais c'est, le pardon, c'est dans les deux sens. Hein. C'est pas seulement l'autre, et on ne pardonne pas d'une certaine hauteur. Hein. On pardonne aussi parce que...
C'est se libérer d'une situation qui était...
Fermée. Ben là, regardez... Hein, elle est sortie de son obsession. Eux, ils sont sortis. Il est rentré dans leur peur, puisqu'il est rentré dans la pièce fermée, verrouillée. Donc, on a toujours cette histoire de fermeture et d'ouverture.
Excusez-moi, mais c'est vrai que la vraie nature du bateau, c'est pas de rester à terre, c'est bien d'aller.
Exactement. Voilà. Donc, on retrouve. Voilà. Et donc, le pardon aussi que l'on donne à d'autres ou que l'on accorde nous donne notre vraie nature. Et donne aussi à l'autre sa vraie nature. C'est pour ça que le pardon des péchés, c'est pas rien, quoi. C'est pas un truc religieux. Voilà, la va-vite qu'on peut monnayer ou qu'on peut moquer. C'est un acte de création. Un acte de création. Donc voilà. Alors, du coup, il y a de nouvelles relations qui s'instaurent. C'est ça que ça veut dire. Le ressuscité permet de nouvelles relations. Si on arrête de penser la résurrection comme étant un cadavre qui se remet à vivre comme avant, bah évidemment, on est dans les effets spéciaux, puis là, on dit, bon, ça va, c'est bon, l'évangile de Jésus qui marche sur les eaux, c'est pas pour moi, quoi. Enfin, ça va, c'est pour les contes de bonnes femmes. Non, ça, c'est très, très fort. C'est beaucoup plus fort. Hein. Ça a des incidences humaines, presque ontologique, hein. Vous voyez ce que je veux dire quand je dis ontologique, on est vraiment dans la nature foncière de l'homme. Alors, donc des relations nouvelles sont données, alors que de ne pas pardonner ce qui est habituel, c'est maintenir l'état des choses. Et l'état des choses, on sait ce que ça fait, hein. Guerre, des rancœurs, des peurs. Si je me sens jugée par celui que j'ai offensé, Je n'avance pas non plus. J'ai peur et je me justifie. Donc c'est le péché. Le contraire de la foi. Enfin, le péché, c'est vouloir se justifier. Donc si vous voulez, vous voyez que là, mais c'est très très fort ce qui se passe là. C'est très très fort. Donc relâcher, remettre, eh bien c'est tout simplement donner, à relayer en quelque sorte la nouveauté d'une création ressuscitée. C'est tout. On devient nous-mêmes des ressuscités et des ressuscitants pour autrui, pour les autres. Et ça transforme l'existence des autres. Ça permet d'ouvrir les portes et de ne plus avoir peur. Peur du jugement des autres, peur de sa mauvaise conscience, peur de les condamnations qu'on se réserve à soi-même dans notre tribunal privé, etc. Vous voyez, c'est extrêmement libérateur. Donc vraiment, Jésus, c'est le sauveur. C'est ça, être sauvé. C'est donc du coup une responsabilité énorme. La résurrection, peut-être aussi qu'on n'en veut pas tant que ça et qu'on chipote sur sa modalité objective, parce qu'en fait, au niveau relationnel, vivre en ressuscité, ça implique une responsabilité énorme. Si moi je suis ressuscité, je vis de la vie du ressuscité et du coup du souffle de son esprit, je ne peux pas maintenir des relations de jugement, de rancœur, des comptes, et puis juger les autres, condamner, me prendre pour un modèle de vertu, etc. C'est pas possible. Donc ça change vraiment les relations humaines, mais c'est aussi ça délie les autres, et c'est une façon, en fait, les disciples deviennent des coopérants. Ils coopèrent à la puissance de résurrection, à leur façon, à la création nouvelle, en quelque sorte. Voilà. Ils sont bénéficiaires, puisqu'ils sortent de leur peur, hein, ils sont rejoints dans leur peur de cette chambre, et en même temps, ils sont aptes à libérer les autres de leur peur.
C'est par le pardon que nous sommes sauvés.
Oui, ben on le sait, on le dit au caté et tout ça, enfin, vous voyez, toutes ces phrases automatiques, mais est-ce qu'au fond, on a toujours besoin de revisiter ce que ça veut dire et dans nos situations concrètes, voilà. En fait, c'est la résurrection, elle permet de défaire les nœuds de la culpabilité et du péché. C'est...
Il est frappant dans ce texte, il parle de le mot de mort n'apparaît pas une seconde, le mot d'angoisse de la mort n'apparaît pas, et on a l'impression que ce récit ne répond pas à la question que pose les non-chrétiens, enfin les athées, la religion, c'est une manière de supporter la finitude.
Ça n'a rien à voir.
Il n'y a pas de réponse à ça.
Ah non, c'est ça, parce que c'est pas... Non, pas du tout. Oui. Et justement, c'est pour cette raison que, d'une certaine manière, le témoignage que l'on a à voir, c'est de se dire, je ne sais pas ce que c'est que la résurrection, et ça me pose un problème, on va dire, intellectuel, et c'est vrai. Mais de vivre en ressuscité, c'est-à-dire d'abord la résurrection, on ne peut que la recevoir, et c'est une responsabilité et c'est une capacité à rentrer en collaboration avec la puissance de résurrection de Dieu à l'égard de son Fils. Donc c'est beaucoup plus embêtant que de dire c'est comme ça, il a fait comme ci, il a fait comme ça. C'est
voilà. Justement, par rapport à ça, moi j'ai une question pratique réelle. On peut essayer de vivre pardonner, mais si on a en face de soi quelqu'un qui continue à faire du mal, à vous faire du mal, vous voulez pardonner à quelqu'un qui vous fait du mal, voilà, mais il continue à vouloir, quelle est la, moi je ne sais pas, moi je suis dans la réalité, là, quelle, comment se comporter vis-à-vis
mais
de ça.
Le texte donne des éléments de réponse, moi je ne sais pas, mais parce que votre situation est sans doute beaucoup plus complexe que je ne peux imaginer. Mais le texte donne des éléments de réponse. Au fond, on se rend bien compte que, de un, ce n'est pas des choses que maîtrisent les disciples. Que, deux, c'est la présence de Jésus. Donc, c'est notre, et la relation intime qu'il y a entre Marie, Magdala et les disciples avec Jésus, hein, et qui sont eux-mêmes reconnus dans leur identité. Et que, d'autre part, on voit bien qu'il y a un changement en eux. Donc, moi, je ne sais pas. Si quelqu'un vous offense et que vous vous changez, quelque chose va changer, c'est celui qui vous offense. C'est... Ben dans ce cas, peut-être que... Non, mais il n'y a pas de... Le texte ne cherche pas, il cherche pas à donner un manuel de comportement. Mais peut-être que nous, dans ce texte-là, en le creusant, en le méditant, en le priant aussi, enfin en priant, en demandant, parce qu'il faut demander... peut-être que les solutions viendront, mais il n'y a pas de solution qui est posée dès le début, et parce que le texte ne parle même pas de solution.
Donc, par exemple, non, le Christ il dit si on te frappe dans l'autre
alors,
jour,
on n'est pas là. Je ne voudrais pas rentrer là-dedans parce que là, vous voyez, c'est un texte d'une densité. On n'a même pas parlé de Thomas.
Pourquoi ? Parce que le disciple qui est tardif de Thomas, si vous voulez en parler, c'est celui qui comprend le plus tard possible.
Oui, oui. Alors, mais
il arrive après.
Il arrive après et il est déjà là, il faut que je m'arrête. Oui.
Ah oui.
Et alors, il y a plein de questions qui a. Pardon.
Le coup près du temps.
Le coup près du temps, alors moi, je ne sais pas comment faire. Je sais, alors voilà, moi normalement, moi je vous propose une chose, c'est que mercredi prochain, moi je dois faire sur Job, hein, les visites de Job, c'est-à-dire, moi je propose que je termine ça mercredi prochain, parce que vous allez voir la suite avec Thomas, elle donne encore une autre densité.
C'est vous mercredi prochain ?
Oui, c'est moi.
Moi je voyais que c'était alternativement, vous et le pasteur Marc, non ?
Non, c'est comme ça.
Mais vous n'allez pas laisser tomber Job, hein ?
C'est la dernière. Non. Mais c'est pareil, Job, c'est bon. Mais je trouve dommage de m'arrêter là. Parce qu'on est rentré dans un texte. Bon.
Le mercredi 26,
j'arrête.